bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Ce sont les fameux doubichous de Sofia.
Ah, c'est très bon.
C'est très fin, ça se mange sans faim.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Certains êtres sont sujets à une grande délicatesse de passion, sensibles à l'excès à tous les accidents de la vie. Nul doute que ceux qui ont ce caractère éprouvent des joies plus vives et aussi des peines plus intenses que les tempéraments froids et posés. Mais à tout prendre, il n'est personne, je crois, qui ne se préfère de la seconde espèce, à supposer qu'il soit possible de décider entièrement de ses dispositions. La grande délicatesse des passions, c'est ce qui définit aussi les membres de l'équipe des Nouveaux Chemins, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Colomba Grossi et Lucie Tardy, avec Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Thibaut Germez à la prise de son, et celle que vous retrouvez tous les jours pour ces 2 minutes papillon, exceptionnellement aujourd'hui à 10h49, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et bien pour cette journée internationale des droits des femmes, nous parlerons du genre à l'épreuve de la biologie. Il n'y a pas de genre, pas de sexe, mais des sexes innombrables. C'est ce que soutient Thierry Hoquet dans un essai paru au Seuil.
Rendez-vous donc à 10h49, car à 10h51, en cette journée internationale dédiée aux droits des femmes, Christiane Taubira vous propose toutes les heures sur France Culture son dictionnaire critique du sexisme, qui viendra donc ponctuer cette émission à 10h49. David Hume ou l'étincelle du doute, deuxième temps. Après Didier Deleu, le venu hier, vous brossez le portrait du philosophe écossais. Avant Éléonore Le Jallet, qui vous dira demain ce qu'il reste de l'identité personnelle quand on tient l'expérience pour seul guide. Et Jean-Pierre Grima, qui jeudi vous présentera les passionnants dialogues sur la religion naturelle. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le philosophe Michel Malherbe, professeur émérite de philosophie anglaise à l'Université de Nantes, à qui l'on doit notamment une étude sur les passions de Hume, ainsi qu'une édition Chevrin, des textes délicieux qui vont nous occuper aujourd'hui, les essais sur l'art et le goût, dont la lecture ne laisse jamais indifférent. Bonjour à vous, Michel Malherbe.
Bonjour, Adèle Vendrette.
He's remarkable, Majesty. I heard an extraordinary, serious opera of his last month, Idomeneo, King of Crete.
That? A young man trying...
Un jeune homme qui se hausse du col, qui, par tout moyen, veut impressionner. L'œuvre a trop de brio, trop de... trop de notes.
Majesté, c'est ce que j'ai entendu de plus prometteur depuis plusieurs années.
Eh bien, soit. Il nous faudra faire un effort pour l'acquérir. Disons, un opéra en allemand pour notre théâtre national.
Excellente idée.
Mais pas en allemand, de grâce, votre majesté. Seul l'italien est propre à servir l'opéra. Les honnêtes gens sont formels à cet égard.
Je veux voir ce jeune homme. Chambellan, préparez-lui un agréable accueil.
Ah. Mozart.
Majesté.
Jeune homme, nous voulons vous commander un opéra.
Majesté.
En définitive, avons-nous tranché pour l'allemand ou l'italien ?
En allemand, Majesté, je vous en prie, en allemand.
Et pourquoi ?
Parce que j'ai déjà trouvé un merveilleux livret d'opéra. L'histoire se déroule dans un sérail.
Ah.
C'est tout à fait moral, Majesté. Cela exalte véritablement les vertus allemandes.
Excusez-moi, Majesté, mais peut-on me dire quelles sont ces vertus ? Venant d'ailleurs, j'aimerais qu'on m'éclaire.
L'amour, sire.
L'amour, bien sûr. Il va de soi qu'en Italie, nous ne savons rien des choses de l'amour.
Non, vous en ignorez tout. Enfin, si on s'en réfère à vos opéras. Des sopranos mâles si égosillent, des couples grêles, stupides, roulent des yeux exorbités. Rien à voir avec l'amour, ce n'est que pure foutaise. Majesté, vous choisissez la langue Et moi, je me ferai un devoir de l'orner de la plus belle musique jamais offerte à un monarque.
Si des écrivains négligents ou irréguliers ont pu plaire, ce n'est pas parce qu'ils transgressent ou qu'ils transgressèrent la règle ou l'ordre, mais bien en dépit de ces transgressions. Ils possédaient d'autres beautés, plus conformes à la juste critique. Beautés qui furent assez relevées pour triompher de la censure et donner à l'esprit plus de satisfaction qu'il n'avait de dégoût pour les défauts de l'œuvre. Michel Malherbe, comment David Hume expliquerait le résultat de la composition, la création de Mozart? Ici, on entend un extrait de l'Enlèvement au Sérail, et cette beauté absolue, je me permets de dire absolue parce qu'elle a traversé les siècles pour le coup. Nous considérons encore aujourd'hui que Mozart était un génie et compositeur de chefs-d'œuvre, alors que lui-même, Hume, dit bien que cela ne dépend pas de facteurs extérieurs. La preuve en est, dans l'extrait du film Amadeus de Milos Forman qu'on a entendu, on voit bien que Mozart était transgressif, qu'il ne respectait pas les mœurs de son temps. Comment expliquer alors cette constance du goût qui fait que Mozart est encore aujourd'hui considéré comme ce génie?
Avant de répondre, je suis heureux que nous ayons eu cette introduction musicale, parce que la musique de Mozart est une musique sociale et qui suppose un rapport au public. Les essais de Hume essayent d'établir, après l'échec relatif de l'exercice académique que fut le traité de la nature humaine, les essais représentent cet effort de Hume pour atteindre un large public, pour atteindre la société cultivée de son temps, de même que Mozart essaye d'atteindre la société cultivée de l'Autriche, de l'Empire autrichien. Et cette relation suppose que deux choses. D'une part, que l'on se donne les outils stylistiques pour toucher ce public, et l'essai est une forme libre qui est propre à séduire le public. Et puis, d'autre part, que ce dont on parle soit des sujets bien connus du public. Hume n'invente absolument pas la question de la règle du goût. C'est une question récurrente en Angleterre au XVIIIe siècle, et le nombre d'ouvrages écrits sur le goût est extrêmement important.
Pourtant, la notion d'esthétique n'existe pas encore au moment.
La notion d'esthétique n'existe pas encore. C'est pourquoi présenter ces essais comme étant des essais esthétiques, c'est un anachronisme. Même si l'emploi du mot esthétique est assez commode en la matière. Mais Et dans cette... il faut penser que là, la philosophie est en relation avec un moment social, avec un état social, avec un ensemble de pratiques intellectuelles, avec des mœurs. Et j'imagine Hume sensiblement dans la même position par rapport à son public que Mozart par rapport à son public. Alors là, un public qui est celui d'une cour royale. Alors que le public que vise Hume, c'est cette noblesse ou haute bourgeoisie qui ne vit pas tellement à la cour. Nous sommes en Angleterre, mais dans les manoirs des Midlands, dans toutes ces gentilhommières de la campagne anglaise.
Mais si Mozart et Hume ont en commun de s'adresser à un public, comme vous le dites, comment expliquer alors l'origine même du goût qui va faire que Hume comme Mozart sont encore lus et écoutés aujourd'hui, alors qu'en leur temps, ils étaient transgressifs?
La réponse est à la fois simple et compliquée. Comme toujours chez Hume, Hume se lit très très facilement.
C'est un vrai plaisir de lecture.
Et c'est un plaisir de lecture, il y a une séduction du texte. Et quand on analyse de plus près, on s'aperçoit qu'il y a derrière cela une argumentation construite, organisée. Je voudrais simplement toucher, il y a un problème de traduction, parce qu'en anglais, le titre de l'essai c'est « Of the Standard of Taste ». Et certains traducteurs traduisent par « de la norme du goût ». Personnellement, j'ai traduit par «
de la règle
du goût ». Pourquoi ? Parce qu'en français, au XVIIIe siècle, on dit « la règle du goût ». Et le traducteur du XVIIIe siècle de cet essai, Merian, a traduit par « la règle du goût ». Et puis, si j'emploie le mot « norme du goût », il semble que j'introduise une espèce de dimension sociologique qui fait que l'on dirait on ne tombe pas dans un relativisme purement subjectif, mais il y a quand même un certain relativisme social qui est dominant. Alors, je ne pense pas que ça soit l'esprit recherché par Hume. Dans cet essai, Hume unit deux questions différentes. Comment en vient-on à former une règle du goût à partir de la diversité des goûts et des sentiments, mais il traite aussi de la question inverse, à savoir comment expliquer à partir de la règle du goût le fait qu'il y ait des appréciations subjectives extrêmement diverses. Le raisonnement est à prendre dans les deux sens. Alors l'explication standard, en anglais, c'est le modèle. Il y a peut-être là la différence entre les Anglais et les Français, entre l'empirisme britannique et le rationalisme français. Le mot règle accentue effectivement l'idée qu'il y a un précepte catégorique qui est censé définir le beau dans le domaine du jugement esthétique, alors que Standard suggère plutôt que, au fil du temps, au fil des échanges, au fil de la... pas de l'esthétique, mais pas de la théorie esthétique, mais en anglais, on dit la critique au XVIIIe siècle. Au fil de la critique, progressivement se dégage un modèle exemplaire, duquel, à la fin, on tirera bien une règle.
C'est ça, ce qui est bien comprendre, c'est qu'ici, la distinction entre règle et norme, c'est que cette règle, qui traduit donc le terme anglais de standard, n'est pas prescriptive. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas de la raison, mais qu'elle est tirée, induite de l'expérience elle-même.
Elle est induite de l'expérience. Simplement, il y a bien un acte de la part de la raison. Alors, on sait que, d'une manière générale, chez Hume, tout ce qui concerne le sentiment n'est pas dirigé par la raison. La raison n'est pas une puissance pratique comme chez Kant. Mais la raison n'est pas sans pouvoir et la puissance de la raison, qui est une puissance de nature théorique, c'est une puissance régulatrice. Un modèle se forme, tout le monde va parler de Mozart, d'un Mozart faisant de la musique avec un livret en allemand. Cela rentre dans les mœurs, cela finit par s'imposer. Et à partir de là, on va former une règle concernant la question du rapport de l'opéra avec les langues nationales. Et la raison, là, fonctionne d'une manière correctrice. Elle régularise, elle met en forme sous une pratique, sous la forme d'une règle. L'avantage, c'est que la règle n'est jamais qu'un principe régulateur.
Oui, mais dans quelle mesure ce principe régulateur ne devient-il pas à son tour, disons, normatif ? Comment faire la part des choses entre les gens qui vont encore écouter Mozart aujourd'hui parce que Mozart est considéré comme un génie et ceux qui auront vraiment le goût, pour lesquels le goût sera formé ou, disons, compatible avec la musique de Mozart ?
La réponse est assez simple. Je prends ce précepte, ou je prends cette valeur consacrée, accordée à la musique de Mozart, et je me pose la question pourquoi certains aiment et pourquoi d'autres n'aiment pas. Et la démarche est extrêmement simple. Le sentiment du beau, qui est un sentiment du plaisir, le sentiment du laid étant un sentiment de douleur, le sentiment du beau, qui est un sentiment de plaisir, c'est certes un principe de valeur, puisque je valorise l'objet perçu comme étant beau, mais en même temps, c'est un fait. C'est un fait historique, c'est un fait de la nature humaine.
Le beau est un fait.
Le sentiment.
Le sentiment.
Le sentiment est un fait. Et comme tous les faits, fait, ça veut dire effet. Factum en latin. Tout fait est un effet, j'en cherche les causes. Au début de l'essai, Hume met en avant la variété des goûts et des sentiments. Mais il ajoute, c'est tout aussi bien un fait que l'on dit que tel auteur est de moindre qualité que tel autre, que Mozart est un génie qui n'a jamais été égalé. Ce genre de choses. Ça aussi, c'est un fait. Et tout le monde s'accorde là-dessus. Comment expliquer qu'il y ait d'un côté un accord, de fait, nous remplissons les musées d'objets qui sont consacrés, nous allons au concert écouter des œuvres qui sont consacrées, et en même temps, je puis parler de la variété des goûts et des sentiments. Comment accorder les deux choses ?
C'est toute la question de l'essai de la règle du goût. Je vous propose qu'on en écoute un autre extrait tout de suite interprété par le comédien Georges Clès. Si l'objet même de cet essai essaie d'énumérer, d'expliquer, d'illustrer les facteurs à l'origine de la variation des goûts, il faut prendre en compte pas simplement les facteurs extérieurs, les mœurs de l'époque, hein, comme l'extrait qui a ouvert cette émission, mais aussi les facteurs intérieurs de, disons, degré de perfection des organes sensoriels et sensibles même. Écoutez.
« Ce n'est pas à tort, dit Sancho, chevalier au grand nez, que je prétends avoir du jugement en matière de vin. C'est une qualité héréditaire dans notre famille. Deux parents à moi furent une fois appelés à donner leur opinion au sujet d'un fût de vin qu'on supposait excellent en raison de son âge et de la qualité de son cru. Le premier le goûte, le considère, et, après mûre réflexion, déclare que le vin est bon, mais avec un petit goût de cuir qu'il y perçoit. Le second, après avoir pris les mêmes précautions, rend aussi un verdict favorable, mais faisant la réserve d'un certain goût de fer qu'il pouvait aisément distinguer. Vous n'imaginez pas comme ils furent moqués pour leur jugement. Mais quels furent à la fin les rieurs ? En vidant le fût, on découvrit au fond une vieille clé attachée à une lanière de cuir. La grande ressemblance qu'il y a entre le goût mental et le goût corporel nous instruira sans peine de la manière d'appliquer cette histoire. Bien qu'il soit certain que le beau et le laid ne soient pas davantage que le doux et l'amer des qualités dans les objets, mais qu'ils appartiennent entièrement aux sentiments, internes ou externes, il faut reconnaître qu'il y a certaines qualités dans les objets qui sont naturellement propres à produire ces impressions particulières. Or, comme ces qualités peuvent s'y rencontrer à un faible degré ou se trouver mêlées et confondues ensemble, souvent, il arrive que le goût ne soit pas touché par tant de subtilité et qu'il soit incapable de distinguer, dans le désordre où elle se donne, toutes les nuances particulières.
Ce texte nous dit deux choses, Michel Balherbe. Déjà qu'effectivement, le goût dépend de facteurs intérieurs comme l'état de perfection des organes. Ici, c'est deux goûteurs de vin qui vont identifier la présence d'une clé avec une lanière en cuir au fond du tonneau. Parce qu'en goûtant le vin, ils auront décelé ce goût de fer pour l'un et ce goût de cuir pour l'autre. Mais aussi, cette phrase qui peut paraître surprenante, cette phrase de Hume qui dit qu'il appartient entièrement au sentiment. Il y a certaines qualités dans les objets qui sont naturellement propres à produire ces impressions particulières. Comme si le goût n'était pas simplement affaire de disposition sensible de la part de celui qui goûte, mais aussi de caractéristiques internes à l'objet qui est goûté.
Considérons le sentiment. Le sentiment, c'est quelque chose de subjectif. Mais le sentiment a un objet qu'il valorise, qu'il va apprécier. Et il y a donc dans le sentiment à la fois la dimension subjective et la dimension objective. Si je m'interroge sur la cause du sentiment esthétique, il faut que je considère les deux termes. Je vais aussi bien considérer toutes les variations qui sont possibles du côté du sujet, et du côté de l'objet, je vais considérer les qualités des objets dont on dit qu'ils sont beaux. Alors, Hume est assez classique. Les qualités des objets qui sont beaux, ce sont souvent ces qualités dont l'esthétique classique faisait l'essence du beau. La proportion des formes, la finesse du trait, on peut imaginer beaucoup de choses selon les arts considérés. Mais prenons la proportion des formes. Chez Hume, ça n'est plus l'essence du beau. La proportion des formes, c'est simplement cette qualité de l'objet dont j'observe que lorsqu'il est présent, il produit dans le sujet un sentiment esthétique. C'est un rapport de cause à effet. Et un rapport de cause à effet, chez Hume, n'est jamais un rapport de raison. J'ai des effets, il y a une corrélation entre la cause et l'effet, et c'est tout.
Y compris dans le domaine du sentiment, certes.
Mais
que fait Hume de celui qui, face à un tableau qui propose et présente toutes les dimensions harmonieuses possibles qui permettent de susciter le beau, va dire « je ne trouve pas que ce tableau soit beau ».
On examinera la finesse de ses organes. On examinera l'éducation artistique qu'il a reçue.
Donc il y a quand même un beau en soi.
Non.
Et surtout pour le vin. Le vin, on est dans le bon, pas dans le beau. Est-ce que le vin est-il bon en soi? Et celui qui le jugerait moins bon serait parce qu'il aurait des organes déficients?
Non. L'épisode porte sur le sentiment. Et sur l'appréciation. Le propre du sentiment, c'est qu'il y a du jugement dans le sentiment. Et ce jugement n'est pas un jugement de vérité. Ce jugement est un jugement de valeur. Et il faut considérer ce que dit le parent de Sancho comme un jugement de valeur. Cela dit, le parent de Sancho a de bonnes raisons. Il y a une cause. Au fait qu'ils disent « ce vin est bon, mais j'y perçois un petit goût de fer ». Il y a une cause qui est une cause de fait. Alors, la preuve étant donnée de la finesse du goût du parent de Sancho, puisqu'il est capable de détecter en buvant un verre de vin qu'il y a du fer dans le...
Mais ce qu'il y a de sous-entendu dans ce texte, c'est l'universalité de la nature humaine. C'est-à-dire que chacun est égal devant un verre de vin, un tableau, et que si d'aucuns ne trouveraient pas ce vin assez bon ou ce tableau assez beau, c'est qu'il y a une déficience quelque part. Pour le sceptique et Hume, c'est étonnant de postuler cette universalité de composition de la nature humaine.
D'une part, chez Hume, il y a des règles. Ces règles sont générales. Une règle, chez Hume, n'a pas de caractère de nécessité. On ne tire pas l'universel du nécessaire, chez Hume. Il y a une universalité de la nature humaine. par principe, cette universalité souffre les exceptions. Je peux poser des règles universelles du goût, il peut y avoir des génies qui sont totalement atypiques. Donc la règle n'est jamais si universelle qu'elle exclut toute exception. Assurément, quand il y a une exception, cela appelle, c'est une incitation à l'explication. Il faudra compliquer la règle générale, introduire un paramètre nouveau qu'on n'avait pas perçu. Ça, c'est du côté de la règle. Donc la règle n'a jamais qu'une fonction régulatrice. Maintenant, deuxième chose, quand j'établis ces corrélations entre les causes et les effets, entre les propriétés du sujet qui perçoit et de l'objet perçu, quand j'établis ce rapport, j'établis certaines régularités, certaines lois, ce sont les lois de la nature humaine. Mais la démarche est empirique.
Il apparaît donc que dans toute cette variété capricieuse du coup, il y a certains principes généraux d'approbation et de blâme dont un œil attentif peut suivre l'influence dans toutes les opérations de l'esprit. Certaines formes ou qualités particulières, de par la structure primitive de notre constitution interne, sont faites pour plaire et d'autres pour déplaire. Et s'il arrive qu'elles manquent leur effet, cela vient d'un défaut, d'une imperfection manifeste dans l'organe. Un homme qui a la fièvre ne protesterait pas de l'aptitude de son palais à décider des saveurs, et celui qui a la jaunisse ne s'arrogerait pas de juger des couleurs. Pour toutes les créatures, il y a un état sain et un état de déficience, et seul le premier est réputé capable de nous fournir une véritable règle du goût et du sentiment. Si l'organe est sain, et si une totale ou une large uniformité de sentiments prévaut parmi les hommes, c'est alors que nous pouvons acquérir une idée de la beauté parfaite.
Ça, c'est de la musique. Super. Tu vas en vendre 3 exemplaires, 2 pour tes parents et 1 pour toi. Tu devrais écrire pour Johnny Hallyday.
Ah, plutôt crever. Mais... Écris pas pour des auditrices prépubères. Mais...
France Gall ?
Non.
J'ai déjà pris rendez-vous avec son père.
Alors, monsieur Gainsbourg, vous voulez voir les yéyés ?
Il faut prendre l'argent où il est.
Allons. Ne soyez pas cynique. On peut être grand public et exigeant.
Take the money and run.
Il y a un mystère, voyez-vous, dans les goûts des enfants. On croit qu'ils aiment tout et...
Ils aiment ce qu'on leur donne.
Pas toujours.
Vous fumez ?
Non.
Même quand papa a le dos tourné ? Mes chansons vous ont plu ?
Je crois que mon père les aime beaucoup.
C'est pas une réponse.
Si. Mon père a très bon goût. Tout le monde aime les chansons qu'il choisit pour moi.
Donc quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais un professeur qui me disait « Si vos parents aiment votre travail, c'est que c'est de la merde. » Vous voulez que je vous écrive une chanson cochonne ? Imaginez, c'est l'histoire d'une jeune femme qui aime les sucettes.
Et alors ?
Voilà, elle suce des friandises pour de l'argent que lui donnent des messieurs.
C'est pour les gamines, votre truc ?
Les sucettes, les sucettes à la Annie, d'Annie, donnent à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'ange parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie. Quelques pénis, Annie, à ses sucettes, l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des joues heureux.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h30 et c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à David Hume et l'étincelle du doute. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Michel Malherbe, à qui l'on doit une édition, traduction, introduction des essais sur l'art et le goût de David Hume. Chez Vrin, ces essais sont donc sur quoi porte notre discussion du jour, et les sucettes à l'anis de Serge Gainsbourg nous rappellent que le goût n'est pas simplement affaire de jugement, mais aussi peut-être d'organes sensoriels.
Et le français j'embasse encore, et retourne au drugstore pour quelques pénis. Ni à ces sucettes à l'anis, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux.
Alors Michel Malherbe, cette variété capricieuse du goût dont parle Hume trouve certaines normes qui sont difficiles à définir. Ça, on l'a dit, on ne sait pas si elles sont intrinsèques à l'objet qui est goûté, intérieures aux hommes qui eux-mêmes vont goûter cet objet. Mais l'extrait qu'on a entendu, donc l'extrait du film de Johann Sfar, Gainsbourg, Vie héroïque, pose cette question de savoir que est-ce que ce qui plaît au plus grand nombre. En l'occurrence, au moment où Gainsbourg parle, les chansons aussi de France Gall, qui vont bientôt être lancées, permet d'établir des principes généraux d'approbation. La question est claire. Comment répond-il ?
La réponse est composée. Il faut introduire de nombreux facteurs. Le consensus est un facteur. C'est une circonstance, c'est le mot que Hume emploie. Mais il y a bien d'autres circonstances. Et touchant cette chanson de Gainsbourg, je pense que Hume aurait dit que c'est de l'ordre du mauvais goût.
Est-ce que c'est Hume qui parle ou est-ce que c'est vous, Michel Malherbe ?
Non. Je pense que Hume aurait dit que c'est de l'ordre du mauvais goût, dans la mesure où le goût peut faire preuve de délicatesse. Il y a un essai qui porte sur la délicatesse du goût et de la passion. Hume développe cette idée que le goût peut être spontanément délicat, mais qu'en même temps, il s'éduque. Et que l'on peut arriver à de plus en plus de finesse. Le parent de Sancho fait preuve de cette délicatesse du goût. Et Hume, dans cet essai, traitant de la délicatesse du goût, explique comment la délicatesse du goût peut introduire du raffinement, refinement, c'est une notion fondamentale, peut introduire du raffinement dans la vie des passions.
Mais la façon qu'a Gainsbourg de décrire le plaisir que prend Annie à goûter cette sucette à l'anis est extrêmement délicate, y compris dans l'écriture de la chanson et dans la description.
Mais il fait appel aux passions. Il fait appel aux passions. Parce que ce dont il est question dans cette affaire de sucette, quand même, l'objet est suffisamment déterminé pour être compris, même si, c'est toujours Hume qui parle, avec une fausse délicatesse, on ne dit pas la chose.
Ce qui est tout l'intérêt de la chanson.
Le propre du goût, c'est, s'il est délicat, d'introduire de la délicatesse dans les passions.
On pourrait justement, du coup, entendre cette chanson comme étant particulièrement délicate, puisqu'elle ne nomme jamais ce dont elle parle, et le plaisir qu'on prend à l'écouter est justement de reconnaître l'objet sans qu'il soit nommé.
Alors, je crains que la réponse de Hume, mais je finis par parler comme Hume lui-même, je crains que la réponse de Hume, comme toujours chez lui, il y a un principe de modération. Il ne faut pas aller trop loin.
L'excès est répréhensible.
La délicatesse de la chanson de Gainsbourg est une délicatesse au second degré pour gens avertis.
Mais alors, si on reste encore un instant, parce que nous avons d'autres essais à aborder, hein, les essais sont au pluriel sur l'art et le goût, nous parlons de la règle du goût parce que c'est effectivement celui qui paraît le plus polémique au moment où Hume les écrit, et encore aujourd'hui, puisque finalement nous n'avons pas vraiment tranché cette question-là. On a dit que l'esthétique n'était pas encore née au moment où Hume écrivait ses textes, l'esthétique comme science, comme connaissance du sensible. Ce sera Baumgartner qui inventera ce terme. 50 ans plus tard, Kant, dans la critique de la faculté de juger, va s'y reprendre cette idée que l'esthétique est fondée sur un jugement, ce que faisait déjà Hume à sa façon. Juste une dernière question quand même. Comment expliquer une forme de permanence du goût au sein des sociétés et au sein des époques? Hume écrit lui-même que, disons, le goût est particulièrement défini à 20 ans. Il dit ceci: les images tendres, les peintures de l'amour font plus d'impression sur un jeune homme dont les passions sont ardentes que sur un homme plus avancé en âge qui trouve plaisir à de sages pensées philosophiques touchant la conduite de la vie, l'art de modérer les passions. Ovide sera notre auteur favori à 20 ans, Horace à 40 et peut-être Tacite à 50. Tout est déjà dit, c'est quand même assez étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une recette ici de goût. Le goût va dépendre de l'âge que nous avons et du moment où nous en sommes dans la vie.
L'âge est un facteur de diversification du goût.
Mais c'est beaucoup plus normatif qu'il n'y paraît, c'est ça que je veux dire. C'est que finalement,
c'est un énoncé de fait. C'est un énoncé.
Mais que l'expérience contredit en permanence. Il y a beaucoup de gens de 20 ans qui n'aiment pas Horace.
Qui n'aiment pas Horace, certainement. Oui. Qui aime Ovide ou l'équivalent d'Ovide aujourd'hui. Hume a sans doute raison.
Là, pour le coup, on est obligé.
Enfin, Ovid qu'on aime à 20 ans et Horace à 40 ans.
Encore faut-il les lire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même ici c'est beaucoup plus relativiste qu'il n'y paraît. D'une époque, l'époque où Hume écrit et où les jeunes de 20 ans lisent Ovid, et sans doute d'un lieu aussi.
Le sentiment esthétique est du même ordre que les passions. C'est le règne du sentiment. Les passions, les sentiments sont ce qu'il y a de permanent dans la nature humaine et dans l'histoire humaine. Les passions sont invariables. Les sentiments sont invariables. Cela dit, les sentiments et les passions sont soumis à toutes ces variations que crée l'histoire humaine, que crée l'éducation des hommes, que créent mille et une circonstances. Et par conséquent, ce qu'il faut considérer dans l'évolution de la civilisation, dans l'évolution, dans l'histoire des arts, c'est ces circonstances qui font que les goûts varient. Mais cela ne nuit pas à l'idée fondamentale qu'il y a une permanence des passions humaines. On peut lire Tacite et le comprendre parfaitement aujourd'hui. Et si on vieillit encore, comme c'est mon cas, on peut lire Thucydide.
C'est le cas de tout le monde, je crois.
Et comprendre aujourd'hui parfaitement Thucydide, parce qu'il est question des passions humaines. Alors, bien entendu, Thucydide, c'est un autre temps. La Grèce antique, c'est un autre temps que le XXe siècle ou le XXIe siècle. Mais si je tiens compte de... Je commence par affirmer qu'il y a une permanence de la nature humaine et ensuite on examine toutes les circonstances qui la font varier.
Mais donc les passions humaines et le sentiment humain sont épargnés par le scepticisme de Hume, sont épargnés du scepticisme de Hume. Celui-ci ne s'applique qu'à la raison, pas au domaine du sentiment.
Oui.
C'est quand même important de le
certainement,
de signaler.
Certainement. Mais parce que le scepticisme de Hume a ce caractère paradoxal d'être extraordinairement positif. Et tous les essais, ceux-ci, mais aussi bien les essais politiques ou les essais économiques, sont parfaitement positifs. D'ailleurs, quand on regarde la structure des essais, par exemple dans l'essai sur la tragédie, Hume pose une question et il répond à la question. Dans tous les essais, il pose une question et il répond à la question. Il donne une réponse.
Alors écoutons la question et voyons comment il y répond. Essai sur la tragédie, interprété par Georges Class.
Comment expliquer le plaisir que les spectateurs d'une tragédie bien écrite prennent à l'affliction, à la terreur, à l'anxiété, à toutes ces passions qui sont par elles-mêmes des causes de désagréments et de tourments? Plus on est touché et ému, et plus on est ravi du spectacle. Et dès que ses passions incommodes cessent d'agir, c'en est fini de la pièce. Une scène de pure joie, de plein consentement, de tranquille sécurité, voilà tout ce qu'une composition de cette sorte peut admettre. Et vous pouvez être certain qu'il s'agit toujours de la scène finale. Si d'autres scènes de félicité sont glissées dans la trame dramatique, ce ne sont que les pâles rayons d'un plaisir jeté là par pur esprit de variété et pour plonger les personnages dans une détresse plus amère encore, frappés du retournement de leur situation et déçus dans leurs espérances. Tout l'art du poète s'emploie à susciter, à entretenir la compassion et l'indignation, l'anxiété et le ressentiment de son public. Car le plaisir du public est en proportion de son affliction. Il n'est jamais si heureux que lorsque, pleurant, sanglotant, poussant des cris, il donne libre cours à sa peine et soulage son cœur qui déborde de la sympathie et de la compassion la plus tendre.
Michel Malherbe, que nous dit Hume dans ce texte que nous ne sachions déjà sur la tragédie, à savoir que le paradoxe de la tragédie, c'est de trouver du plaisir à être affligé. Aristote l'a dit bien avant lui.
La question n'a rien de nouveau, et les questions que Hume aborde ne sont pas nouvelles. Et comme je le disais, il s'adresse à un public qui attend que l'on traite de ce genre de questions, qui font souvent l'objet des conversations cultivées que l'on peut avoir le soir en fumant la pipe. Et donc la question n'a strictement rien de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la réponse. La réponse est nouvelle d'abord par le mode de réponse et puis par la réponse ultime que Hume donne. Hume commence par rappeler la thèse de Dubos, un auteur français qui fut très influent, ses réflexions critiques sur le beau furent très influentes. Pourquoi nous réjouissons-nous? Parce que quand nous allons au théâtre, et on peut dire la même chose pour le cinéma ou d'autres arts, nous nous divertissons. Nous nous divertissons. Première explication, le divertissement. Et plus les passions sont violentes, plus les passions représentées sont violentes, et plus nous nous divertissons. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas affectés, en vérité.
Divertissement Hume dit compris ça, comme suspension de l'affect, donc de l'affection.
Oui, c'est ambivalent, parce que nous sympathisons avec le personnage et en même temps, nous sommes tranquillement assis sur notre siège. Hume dit, ce n'est pas suffisant. Fontenelle, il invoque une deuxième explication, celle de Fontenelle, qu'on va croiser avec la première. Fontenelle dit, mais il faut que cela se fasse au théâtre, dans la représentation. Parce que si l'on assiste à la scène telle qu'elle en réalité, là, nous ne prenons pas de plaisir. Hume derrière Fontenelle. Hume dit, Fontenelle a raison. Mais il faut introduire une troisième dimension, un troisième paramètre. Parce que dans les discours de Cicéron, dont l'éloquence était connue, il représente des scènes qui furent bien réelles, au grand plaisir de son public. D'où, dit Hume, il faut introduire un troisième paramètre qui est celui du plaisir suscité par la représentation. Il y a un plaisir de la représentation théâtrale, il y a un plaisir de la représentation cinématographique, un plaisir propre attaché à l'art. Et si ce plaisir est assez fort pour dominer les autres passions, en l'occurrence les scènes d'affliction qui sont représentées me causent de la peine, si le plaisir que j'éprouve à l'objet d'art est plus fort que la douleur que j'éprouve par sympathie avec les passions représentées, alors l'énergie de la passion dominée se met au service de la passion dominante. Et quand j'éprouve de la peine pour les personnages, cela vient renforcer le plaisir que j'ai de l'œuvre d'art elle-même que j'ai, de la langue de Racine que j'ai, des beautés.
Donc c'est la conscience d'assister à une représentation des passions qui m'est particulièrement agréable en tant que spectateur.
Pas simplement la représentation, il faut que la représentation en question soit une œuvre d'art. Donc il y a un plaisir de l'œuvre d'art elle-même. Il y a un plaisir d'aller être le spectateur d'une pièce de Shakespeare ou de Racine ou de Corneille parce qu'il y a un plaisir esthétique.
Et d'où vient-il ce plaisir de l'œuvre d'art ? Et en quoi diffère-t-il du plaisir, disons, naturel, de la simple affection par l'expérience ? Est-ce que Hume peut faire la généalogie de ce plaisir-là ?
On peut donner des explications. On en reviendra à des critères subjectifs, à des critères objectifs. Cela dit, je peux observer que si j'assiste à un spectacle, à une pièce de Racine ou une pièce de Shakespeare, j'ai du plaisir.
Mais je vais vous poser la question autrement. Dans quelle mesure ce plaisir que nous avons assisté à une représentation théâtrale, disons, relève-t-il d'une éducation ? Ou bien celui-ci est-il naturel ?
Ce qui est naturel, c'est la corrélation que l'on établit entre le sujet et l'objet dans le sentiment esthétique. Ça, c'est un fait de nature. Mais chez Hume, la nature, les principes généraux n'ont aucune évidence par eux-mêmes. Simplement, je peux observer que quand une pièce de Shakespeare est donnée, cela suscite un grand plaisir chez les spectateurs de cette pièce, qui assistent à la représentation. Ça, c'est un énoncé de fait. Ensuite, je peux moduler cet énoncé de fait, la vérité de cet énoncé de fait, en introduisant tout le jeu des circonstances qui font que dans telles circonstances, j'ai le souvenir d'avoir assisté à une pièce de Shakespeare modernisée. Au bout de 5 minutes, on avait compris que ça allait être une catastrophe. Bon. Pourquoi ? Parce que la représentation donnée par cette troupe qui voulait changer Shakespeare, non, ça passait pas.
Et pourtant, tous les goûts sont dans la nature.
Tous les goûts sont dans la nature. Il faut laisser chacun faire ce qu'il veut pour être heureux. Pour la mode et pour la coiffure, on est d'abord loin d'être tous d'accord. Les Zoulous, pour embellir leur visage, sur leurs joues font des dessins bariolés. Mais ma femme, qui n'est pas une sauvage, s'épile les sourcils et teint ses cheveux en violet. Les Kanaks ont comme parure des anneaux dans le nez, nous c'est aux oreilles qu'on les met. Tous les goûts sont dans la nature, nous ne pourrons jamais rien y changer. Le savant qui hésite et discute pour s'offrir un chapeau de 120 francs achèterait pourtant, sans perdre une minute, 700 ou 800 000 francs, un vieux cure-dent d'il y a 3000 ans. Tous les goûts sont dans la nature, il faut laisser chacun faire ce qu'il veut pour être heureux. Notre histoire est pleine d'aventures, nous démontrons ce principe évident. Si Bayard...
Merci Michel Mallard, nous sommes déjà en train de continuer cette discussion hors micro tellement nous n'avons pas encore fait le tour de ces essais sur l'art et le goût, et c'est tant mieux, car ça vous donne une bonne raison de vous y plonger par vous-même, chers auditeurs. On trouve votre édition, Michel Malherbe, aux éditions Vrin, et c'est sur l'art et le goût donc. Dans votre traduction, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Nous avons 2 minutes d'avance, et c'est normal, vous verrez pourquoi. C'est l'heure de retrouver donc les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie.
Vraiment Barbie, j'aime beaucoup.
Quelle Barbie t'as eu toi ?
Diamant. Oh, Barbie diamant.
Barbie diamant, tes yeux dorés, plus belle que jamais, tu brilles au Barbie.
Alors, dis-nous et toi ?
En cadeau ? Une robe de bain ?
Splash, splash, Barbie joie du bain. Prendre un bain comme c'est drôle avec Barbie joie du bain.
Revoir.
croire ou voir cette publicité de 1992 pour des poupées Barbie fait cet effet que Thierry Hoquet décrit très bien. Quelque chose paraît pourri au royaume de son enfance perdue. Et le pourri ne vient pas du sentiment de cette perte, mais plutôt de ce qui a été alors construit. Pour Thierry Hoquet, le pourri vient précisément pour lui du jeu des sept familles, ce jeu où chaque membre représente un stéréotype du féminin et du masculin, avec ses hommes qui chassent en pantalon et ses femmes en jupe à l'intérieur. Bien avant la différence anatomique, bien avant de baisser la culotte dès l'enfance, il y a donc les indices du genre, tout autant d'ornements qui nous aident à distinguer un garçon d'une fille. Des ornements qui pour les uns prouvent bien que le genre est quelque chose de social, de construit, plaqué sur le silence de la nature, ou des ornements selon les autres qui prouvent bien que la nature, puissante et déjà là, ne fait que s'extérioriser. Et bien au milieu de cette lutte des genres, il reste pourtant cette fameuse nature, le sexe biologique qui n'est jamais interrogé pour lui-même, ou plutôt pour eux-mêmes. Car des sexes, il n'y en a pas deux, mais il y en a plusieurs. Le titre de l'ouvrage de Thierry Hoquet dit même qu'ils sont innombrables. Le biologiste, par exemple, en compte 7. Le sexe comme mélange d'ADN, comme type de gonade ou comme mode de reproduction, entre autres. Il y a aussi tout un bestiaire queer qui infirme la naturalité de l'accouplement des deux sexes. Chez l'hippocampe, par exemple, c'est le mâle qui réalise la gestation. Et puis, sans parler chez l'homme, des formules chromosomiques atypiques qui esquissent une intersexuation. Ce que propose donc Thierry Hoquet dans cet essai, c'est de refaire le chemin du sexe, de son immédiateté animiste à son concept positiviste. Et il adopte, dit-il, le point de vue alternaturaliste, mais jamais pour promener la nature, mais au contraire pour mieux s'en débarrasser, au moins quand elle est convoquée à des fins sociales qui la dépassent.
Rappelez-nous le titre du livre, Géraldine.
Bah, des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie, c'est au seuil et c'est de Thierry Hoquet.
Merci beaucoup. En cette journée internationale du 8 mars dédiée aux droits des femmes, c'est Christiane Taubira qui vous propose toute la journée et chaque heure sur France Culture son dictionnaire critique du sexisme.
Des mots contre les femmes. Il en fut prononcé par de brillants esprits, disons par des auteurs qui furent considérés par leurs pairs, parfois par la critique littéraire, souvent par l'opinion publique, conditionnée ou non, comme étant des auteurs brillants. Et il faut convenir qu'à l'aune de la beauté de la langue, de la puissance évocatrice de certaines images, de la force percutante d'une pensée structurée, ces œuvres sont brillantes. À l'aune plus exigeante de l'humanisme, dont le féminisme est l'expression la plus accomplie, parce qu'il récuse l'absolu de l'exclusion, cette exclusion fondée sur l'état de nature. À cette aune-là, ses œuvres inspirent au mieux de la perplexité sur la maturité philosophique de leurs auteurs, au pire, une profonde inquiétude sur les perversions de l'intelligence. C'est en tout cas ce que l'on peut éprouver à l'égard de Joris Karl Huysmans, qui affirme que « la femme n'a pas à être intelligente, elle a à être experte en plaisir charnel et en bon soin. Là se borne son rôle. C'est pourquoi les idées d'émancipation dont on nous rebat actuellement les oreilles me semblent absurdes. » Vous ressentez un haut-le-cœur ? Cœur au singulier, bien sûr. Respirons pour la suite. Léon Blois, fustigeant les critiques, vient défendre Huysmans. Les critiques masculines l'agacent royalement. Mais que des critiques féminines osent aussi s'élever, voilà qui lui est souverainement insupportable. Il les balaie par ses mots. Jusqu'à la plus défoncée des immémoriales catins, récupère un instant sa virginité pour s'en indigner dans son puisard. Vous croyez que c'était au temps de la préhistoire, ça ? Non, c'était en 1913. Et on voudrait tellement croire que ces pensées n'ont plus d'influence.
C'était le dictionnaire critique du sexisme proposé par Christiane Taubira en cette journée internationale des droits des femmes. L'ensemble de ces chroniques, que vous retrouverez donc chaque heure sur France Culture, est à retrouver sur franceculture.fr et à suivre avec le hashtag 8 mars. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à David Hume. Demain, de l'identité à la morale, ce sera la maître de conférence en philosophie moderne et contemporaine à l'université Lille 3 qui viendra vous en parler, Éléonore Lejalais. D'ici là, pour écouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page du Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous pourrez la réécouter quand vous voulez, en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter sans connexion Internet et absolument où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur le compte Nouveau Chemin de la Connaissance de Facebook et Twitter. Nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.